Emmanuel Kant. La religion dans les limites de la raison. Quatrième partie. Deuxième section. Paragraphe 4 du fil conducteur de la conscience dans le domaine de la foi. La question qu'on se pose ici n'est pas de savoir de quelle manière on doit guider la conscience. Car elle ne veut pas de guide. Il nous suffit de la voir, elle. Mais plutôt de quelle manière cette conscience elle-même peut servir de fil conducteur dans les décisions morales délicates. La conscience est une connaissance qui par elle-même est un devoir. Or, comment peut-on concevoir cela, étant donné que la connaissance de toutes nos représentations paraît seulement être nécessaire quand on se place au point de vue logique, et par suite, toujours conditionnellement, quand on veut rendre claire sa représentation, et que par conséquent, elle ne saurait être un devoir inconditionné. Il y a en morale un principe fondamental qui n'a pas besoin d'être démontré, c'est qu'on ne doit rien se permettre si l'on n'est pas sûr que c'est bien. D'après Pline. Avant d'entreprendre une action, connaître qu'elle est juste est, par suite, pour moi, un devoir absolu. Juger d'une action quelconque qu'elle est bonne ou qu'elle est mauvaise, c'est affaire à l'entendement, non à la conscience. Il n'est pas, d'ailleurs, absolument nécessaire qu'on sache de toutes les actions possibles si elles sont bonnes ou mauvaises. Mais pour entreprendre une action, je dois non seulement la juger, et la croire bonne, mais encore être sûr qu'elle n'est point mauvaise. Et cette exigence est un postulat de la conscience morale avec lequel se trouve en opposition le probabilisme, c'est-à-dire le principe qui permet d'accomplir un acte dès qu'on croit seulement qu'il peut être permis. On pourrait encore définir la conscience, la faculté morale de juger, se jugeant elle-même. Mais cette définition aurait bien besoin d'être précédée d'une explication des concepts dont elle se sert. Ce n'est pas des actions à titre de cas tombant sous la loi que la conscience doit juger. Cela, c'est l'affaire de la raison. En tant qu'elle est subjective et pratique, s'occupant à ce titre des cas de conscience et forgeant la casuistique, sorte de dialectique de la conscience morale. Ici, au contraire, c'est la raison qui doit se juger elle-même et décider si, réellement, elle a apporté à l'appréciation des actes toute la circonspection nécessaire pour voir s'ils sont bons ou mauvais, et qui cite l'homme à la barre pour s'aider de son témoignage, favorable ou défavorable, à se prononcer sur ce point. Prenons par exemple un inquisiteur, tellement convaincu de la vérité de sa foi, seule croyance positive vraie, qui se ferait martyriser pour elle. Et supposons qu'il ait à se prononcer sur un hérétique, d'ailleurs bon citoyen, accusé d'incrédulité. Eh bien, je vous le demande, et s'il se décide pour une condamnation à mort, peut-on dire qu'il a jugé selon sa conscience, erroné, c'est certain, et ne peut-on pas, au contraire, lui reprocher d'avoir absolument agi sans conscience, soit qu'il se soit trompé, soit qu'il ait fait mal sciemment, attendu que l'on peut lui jeter à la face qu'en pareil cas, jamais il ne pouvait être entièrement sûr de ne pas risquer peut-être quelque injustice en prononçant la peine capitale. Il croyait fermement, sans doute, tout nous porte à le présumer, qu'une volonté divine connue de manière surnaturelle, grâce à une révélation, lui permettait, ou même lui faisait un devoir, d'extirper à la fois l'incrédulité prétendue et le mécréant. Mais avait-il donc effectivement de la doctrine révélée, et du sens qu'il faut lui donner, une certitude aussi absolue qu'il le faut pour immoler d'après elle un homme? Qu'il lui soit interdit d'enlever la vie à un homme pour des raisons de croyance religieuse, voilà une chose certaine, à moins que toutefois faisons les plus grandes concessions. Une volonté divine extraordinairement parvenue à sa connaissance en est ordonnée autrement. Mais cette volonté terrible, Dieu l'a-t-il jamais exprimée? C'est un fait qui repose sur des documents historiques et n'est jamais apodictiquement certain. Somme toute, c'est par les hommes que lui est venue la révélation, et ce sont eux qui l'ont interprétée. Et quand même il lui semblerait qu'elle lui arrive de Dieu lui-même, tel l'ordre qu'Abraham reçut d'immoler son fils comme une brebis. Il serait tout au moins possible qu'il y eût erreur là-dessus. Il s'exposerait dans ce cas à accomplir un acte souverainement illicite, et par là même, il agirait sans conscience. On doit conserver la même attitude vis-à-vis de toute croyance historique et phénoménale. Il est toujours possible qu'une erreur s'y rencontre, et c'est par conséquent agir sans conscience, étant donné que ce qu'elle prescrit ou permet peut être coupable, que de donner suite à ses croyances au risque de violer un devoir humain certain par lui-même. Allons plus loin. Considérons un acte prescrit par une loi révélée de ce genre, positive ou tenue pour telle, et qui est permis en lui-même. Les autorités ecclésiastiques ou les maîtres de la croyance peuvent-ils, en raison de leur prétendue certitude, imposer au peuple de l'accepter, au grand détriment de leur profession, ainsi qu'un article de foi? Leur conviction n'étant basée que sur des preuves historiques, et pour peu qu'ils s'examinent, le peuple, jugeant qu'il est toujours absolument possible qu'une erreur soit venue se glisser dans les textes ou dans leur interprétation, le clergé contraindrait le peuple à regarder, au moins intérieurement, comme étant aussi vrai que sa foi en Dieu, ou, en d'autres termes, à professer, en quelque sorte, en présence de Dieu, une chose que cependant il ne connaît pas être telle avec certitude. À tenir par exemple la désignation d'un jour fixe en vue des manifestations publiques et périodiques de la piété comme directement faite par Dieu lui-même à titre d'élément essentiel de la religion, ou à professer qu'il croit fermement à la vérité d'un mystère qu'il n'est même pas capable d'entendre. Le supérieur ecclésiastique, en ce cas, chargerait lui-même sa conscience en imposant aux autres une foi dont lui-même ne peut avoir la conviction parfaite, et il serait donc convenable qu'il réfléchisse à ce qu'il fait, parce qu'il aura à répondre de tous les abus qui naîtront d'une pareille foi servile. Il est ainsi possible que ce qui est cru soit la vérité et qu'en même temps il y ait insincérité dans la foi ou même dans la simple profession interne de cette foi, ce qui est en soi condamnable. Nous avons remarqué plus haut que dès qu'ils ont goûté à la liberté de penser, des hommes courbés, autrefois sous le joug servile de la croyance, par exemple les protestants, se regardent en quelque sorte tout de suite comme ennoblis du fait qu'ils ont moins de choses à croire, moins de ces choses positives qui font l'objet des prescriptions des prêtres. Or, c'est exactement le contraire qui se produit chez ceux qui n'ont encore ni pu ni voulu faire un essai de ce genre, car ils ont pour principe qu'il est prudent de croire plutôt davantage que pas assez. Ce qu'on fait de trop, par excès de zèle, ne peut jamais être en effet nuisible, et peut quelquefois être avantageux. Sur une illusion de ce genre qui fait de la mauvaise foi dans les aveux de croyances religieuses un principe que l'on accepte avec d'autant plus de facilité que la religion efface toutes les fautes et tourne à bien par suite cette même mauvaise foi, se fonde ce que l'on appelle la maxime de sûreté dans les choses de la croyance. Si ce que je proclame comme étant de Dieu se rencontre vrai, j'aurais dans ce cas touché juste. Si c'est faux, mais que par ailleurs ce ne soit rien en soi de défendu, j'aurais cru seulement quelque chose de trop. Ce qui évidemment n'était pas nécessaire, m'imposant par là un surcroît de peine, mais ne commettant pas un crime. La mauvaise foi d'une telle excuse expose l'homme à la violation de sa conscience morale, en lui permettant de donner pour certaine, devant Dieu lui-même, une chose dont il sait bien qu'elle est d'un caractère tel qu'on ne peut l'affirmer avec une confiance absolue. Mais tout cela, pour l'hypocrite, n'a absolument aucune importance. La vraie maxime de sûreté, la seule compatible avec la religion, veut exactement le contraire. Tout ce qui m'est donné à titre de moyen ou de condition du salut, non par ma raison personnelle, mais seulement par la révélation, tout ce que je ne puis admettre dans mes professions de foi qu'en raison d'une croyance historique, et à quoi cependant ne contredisent pas les principes purs de morale, si je ne puis le croire et n'affirmer certains, je ne peux pas non plus l'écarter davantage comme sûrement faux. Pourtant, sans rien décider sur ce point, s'il se trouve en cela quelque chose de salutaire, je compte que j'y aurai part, si je ne m'en rends pas indigne en quelque manière, par le défaut d'intention morale dans ma bonne conduite. Dans cette maxime est comprise la sûreté morale véritable, celle qui est valable au regard de la conscience, la plus grande qui puisse être exigée par l'homme, tandis qu'il y a le summum des risques et l'insécurité suprême dans ce qu'on prétend être un moyen de prudence servant à éviter astucieusement le grave préjudice qui pourrait nous venir de la non-profession, car en voulant être des deux parties, on s'expose à perdre les bonnes grâces de l'un et de l'autre. Si le rédacteur d'un symbole, le docteur d'une église ou un homme quelconque, puisque chacun doit pouvoir s'avouer intérieurement à lui-même qu'il croit fermement aux propositions qui lui sont révélées par Dieu, se posait la question suivante. Oserais-tu bien affirmer, en présence de l'être qui scrute le fond de nos cœurs, sur tout ce que tu as de précieux et de saint, la vérité de ces propositions? Il me faudrait avoir de la nature humaine, qui cependant n'est pas incapable de bien dans une pareille mesure, une idée très défavorable pour ne point supposer que le plus hardi docteur de la foi serait alors saisi de crainte. Note. Il faudrait, quand un homme est assez hardi pour prétendre qu'on est damné si l'on n'accepte pas, comme une vérité certaine, telle ou telle foi historique, qu'il pût dire aussi « Je consens, si ce que je vous conte ici est faux, à être moi-même damné. » Si se rencontrait un homme capable de proférer cette imprécation effroyable, je vous conseillerais de vous comporter vis-à-vis de lui comme le veut ce proverbe persan dirigé contre le Hadji. Aussitôt qu'un homme est allé en pèlerinage à la Mecque, change de logement s'il habite dans ta maison. Quand il y est allé deux fois, quitte la rue où il demeure. Mais s'il y est allé trois fois, abandonne sa ville, même le pays où il vit. Fin de la note, retour au texte. Mais s'il en est ainsi, peut-on en conscience continuer à demander aux hommes une déclaration de croyance sans restriction et avoir la témérité de leur présenter ces protestations comme un devoir et une exigence du culte, foulant ainsi aux pieds la liberté humaine, requise cependant dans toutes les choses morales, telle qu'est l'acceptation d'une religion, et ne laissant pas même une petite place à la bonne volonté qui proclame « Je crois, Seigneur, aidez mon incrédulité. » Note. Sincérité, ô toi qui t'es enfui, astrée de la terre jusqu'au ciel, Comment te faire redescendre, fondement de la conscience et poursuite de toute religion intérieure, de ces hautes régions vers nous? Je puis concéder à la vérité, bien que ce soit fort regrettable, que l'on ne trouve pas dans la nature humaine la candeur, qui consiste à dire toute la vérité qu'on sait. Mais ce qu'on doit pouvoir exiger de tout homme, c'est la sincérité. Par quoi, tout ce qu'on dit demeure véridique. Et s'il n'y avait pas dans la nature humaine une disposition qui nous porte à être sincères, mais que nous négligeons, hélas, de cultiver, la race des hommes, à ses propres yeux, devrait être un objet souverainement méprisable. Or, cette qualité de l'âme indispensable est exposée à de nombreuses tentations, et souvent impose des sacrifices, nécessitant ainsi de la force morale, c'est-à-dire de la vertu, chose qu'il nous faut acquérir. Elle a besoin, plus que tout autre, d'être surveillée de bonne heure et adroitement cultivée, car une fois qu'il a pris racine en notre âme, le penchant opposé est très difficile à détruire. Et maintenant, confrontez avec cette règle tout notre système d'éducation, surtout en matière de religion, ou mieux, de doctrine de foi. Vous verrez que tout porte sur la fidélité que montre la mémoire à répondre aux questions posées, sans qu'on se préoccupe de la fidélité des professions de foi, qu'on ne soumet à aucun examen, et que cela seul paraît suffisant pour faire un croyant qui demeure incapable de comprendre même ce qu'il dit saint. Et vous ne pourrez plus, dès lors, vous étonner du manque de sincérité qui fait dans leur fort intérieur de purs hypocrites de tous les hommes. Fin de la note.